Luc chapitre 9, les versets 27 et 28. Je vous laisse le temps de chercher juste ces deux versets qui vont attirer toute notre attention ce matin. Luc chapitre 9, les versets 27 et 28. Celui qui rassemble, qui nous rassemble ce matin, c'est la personne de Jésus. Et il est important, plus que jamais maintenant, de se concentrer, alléluia, sur elle. Nous lisons ensemble Luc chapitre 5, excusez-moi, j'ai dit 9 ? C'était pour voir si vous suiviez. Excusez-moi. Luc chapitre 5, les versets 27 et 28. Et nous lisons ensemble la chose suivante. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi. » Verset 28, « Et laissant tout, il se leva et le suivit. » Amen. Peut-être en introduction, rappeler qui était Lévi. Lévi était ni plus ni moins un juif qui exerçait un métier, une fonction, la fonction de publicain. Qu'est-ce qu'un publicain ? C'était ni plus ni moins un percepteur d'impôts de l'époque. Et il exerçait cette fonction dans la ville de Capernaum. Et il faut le savoir, ces publicains ou ces percepteurs d'impôts étaient mal vus bien de leurs contemporains et compatriotes juifs. Et pour cause, bien ces mêmes publicains, bien ils percevaient l'impôt pour le compte des Romains qui, à cette époque, bien régnaient, dominaient sur, entre autres, la Palestine. Ainsi, en tout cas, nous revenons sur notre texte. Jésus dit à Lévi, ces quelques mots qui vont attirer toute notre attention ce matin. Il dit, suis-moi. Et nous le voyons, eh bien, notre ami Lévi, sans demander son reste, qu'est-ce qu'il fit ? Spontanément, il laissa tout en plan, se leva et suivit le meilleur des maîtres. Je ne sais pas si à ce moment-là, notre ami Lévi, que l'on connaît plus couramment sous le nom de Matthieu, si notre ami Lévi ou Matthieu, peu importe, eh bien, a pris réellement conscience de cette invitation que Dieu lui a faite à cet instant. Parce qu'effectivement, eh bien, suivre Jésus, c'est entrer dans une vie belle et passionnante. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? Et il a eu le temps de le voir, puisque dès qu'il a laissé tout et puis est commencé à se lever pour suivre le Seigneur Jésus, eh bien, il est parti pour 3 ans et demi à marcher derrière le Seigneur et à vivre une vie de foi, une vie où il a expérimenté, où il a touché du doigt le miracle, les miracles, les prodiges que Jésus a pu accomplir. Il a vu de ses vieux vues même des résurrections glorieuses. Et plus tard, nous le savons. Peut-être qu'au départ, il ne le savait pas, mais Dieu l'avait choisi pour qu'il soit poussé par le Saint-Esprit pour écrire un des 4 évangiles que nous avons à notre disposition. L'évangile selon saint Matthieu, c'est Lévi qui l'a bien écrit, poussé par le Saint-Esprit, et que Dieu soit béni. Un livre encore qui nous instruit, qui parle en particulier pour les Juifs, puisque bien, dans sa pensée, il voulait interpeller ses compatriotes juifs sur la personne de Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi goûter à la vraie joie. Vous savez, il y a toutes sortes de joies dans le monde. Mais la joie du Seigneur, elle est particulière. Elle ne dépend pas des circonstances. Suivre Jésus, c'est aussi goûter cette paix surnaturelle qui également ne dépend pas des circonstances. On est en paix, pas par rapport au choix du nouveau président, mes amis. On est en paix, eh bien parce que nous avons été réconciliés avec Dieu d'une manière verticale. On est en paix parce qu'on est en paix avec notre prochain. On est en paix avec nous-mêmes parce que le prince de la paix est venu habiter nos vies. Suivre Jésus, c'est aussi goûter la vie éternelle. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir l'assurance, l'espérance, un jour, alléluia, après notre mort, si Jésus venait à tarder, eh bien de pouvoir se retrouver dans ce ciel de gloire et d'éternité en éternité, nous réjouir de tout ce que le Seigneur il a préparé pour nous et qui est d'ailleurs ineffable. Si on arrive encore à raconter ou à penser à des choses qui nous attendent là-haut, c'est qu'on n'est toujours pas dans le coup, hein. C'est des choses ineffables, des choses extraordinaires qui nous attendent. Frères et sœurs, nous avons besoin de lever la tête. Et quel que soit le choix de ce soir par rapport au président, nous allons, nous sommes un peuple qui avançons et qui avançons jusqu'au retour du Seigneur. Parce qu'il a dit aussi qu'il est à la porte et qu'il revient bientôt. Nous l'avons entendu tout à l'heure au travers, alléluia, de l'introduction de la Sainte Cène. Suivre Jésus donc, c'est jouir d'une merveilleuse espérance. Et la bonne nouvelle, peut-être pour plusieurs en ce lieu, c'est que, tout comme Lévi, Jésus, qui est là présent d'ailleurs, te dit d'une manière personnelle, suis-moi. Il te dit, suis-moi. Et celui qui te dit, suis-moi, c'est celui qui a dit aussi, entre autres, qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te dit ce matin, suis-moi, et qui t'a conduit jusqu'à maintenant, à droite, à gauche, et qui ce matin voulait que tu sois là pour entendre ce message, il te dit, fais-moi confiance, suis-moi. L'exemple que tu dois suivre, c'est celui de cet homme qui n'a pas commencé à calculer, pas commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il laissa tout, il abandonna tout, il se leva pour suivre le meilleur des maîtres. Et peut-être, ce matin, ça correspond à ton aspiration personnelle. Ton désir, c'est la preuve que tu es là ce matin, c'est que tu veux aller plus loin avec le Seigneur. C'est plus que jamais t'attacher à lui et être plus amoureux de lui, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Et le Seigneur, il le voit. Oui, il sait que tu veux le suivre. Mais en même temps, peut-être que le questionnement, il est là dans ton esprit et peut-être que tu te poses cette question suivante, c'est que veut dire suivre le Seigneur? Ça, c'est intéressant. Jésus te dit de le suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Faut-il laisser mon travail et tout ce qui m'appartient pour aller je ne sais où? En quoi consiste le fait de suivre le Seigneur? Et justement, c'est ce que j'aimerais éclaircir avec chacun d'entre nous ce matin, si vous le voulez bien. Premièrement, suivre le Seigneur, consiste tout d'abord à se réconcilier avec Dieu. Frères et sœurs, aucune personne ne peut prétendre suivre Christ sans qu'elle ne soit au préalable réconciliée avec Dieu, sans qu'elle ne soit passée par ces étapes incontournables qu'on appelle entre autres la repentance, mais aussi ce qu'on appelle la conversion. Et la Bible est là pour nous rappeler ces étapes qu'il nous faut valider avant de prétendre réellement suivre le Seigneur. Regardez ce que dit, par exemple, me semble-t-il, l'apôtre Pierre, acte chapitre 3, du verset 19 au verset 20. Lui-même déclare à toute la foule qui était devant lui, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et il rajoute, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oh, ne cherchez pas tant les temps de rafraîchissement à l'extérieur, ce monde va à sa perte. Et le monde se plonge de plus en plus dans les ténèbres. Mais ces temps de rafraîchissement, ils commencent déjà dans notre propre vie, peut-être bien même dans notre famille, autour de nous. Et ce temps de rafraîchissement, il sera dispensé, alléluia, partout où vous passerez. Mais il nous demande avant tout d'expérimenter la repentance et la conversion. Alors peut-être quelqu'un aussi pourrait se poser la question, mais c'est quoi ce repentir? Se repentir, c'est bien sûr à un moment donné réaliser que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs les uns les autres. Et quand on a réalisé qu'on est pécheur, face à la sainteté de Dieu, désirer, avoir ce profond désir de changer de mentalité, changer de cœur et décider réellement d'abandonner son péché. Et on va l'abandonner en commençant par confesser notre péché à Dieu. Je précise, à Dieu. Parce que la Bible, elle est claire, elle est formelle et elle déclare la chose suivante, ne le cherchez pas, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je mets n'importe qui à défi ce matin, si de tout votre cœur vous venez, peut-être au pied du Seigneur, peut-être seul dans votre chambre et vous confessez votre péché à Dieu, si vous le reconnaissez, à l'instant même, Dieu vous pardonne. Il ne va pas dire, attends, je vais attendre de voir comment tu vas finir la semaine, je vais voir si tu le mérites. Vous savez, c'est le propre même de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et là, il y a une grâce, il y a une faveur imméritée. Il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour revenir à notre histoire, bien, on le voit avec Lévi. Lévi, en entendant cette invitation de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il abandonne tout. Il se lève et il suit le Seigneur. Et derrière ce « il abandonna tout », j'ai envie de nous dire, il abandonna à cet instant-là eh bien, son ancienne vie sans Dieu. Il abandonna aussi son péché. Parce que vous n'êtes pas eh bien, sans savoir que les publicains à l'époque étaient des hommes connus pour estorquer l'argent eh bien, des contribuables. En même temps qu'ils percevaient donc les impôts pour le reverser aux Romains, l'occupant romain, en même temps ils prenaient un peu plus et ils mettaient dans leur poche. Et tout ça, eh bien certainement, Lévi, à plusieurs reprises, a dû le faire. Mais il voulait abandonner toute cette ancienne vie pour réellement suivre le Seigneur, eh bien, en nouveauté de vie, dans une nouvelle vie. Et ça, c'est extraordinaire. Nous l'avons lu, Lévi laissa tout pour suivre pleinement le Seigneur. Et à l'instant où Lévi décida de laisser tout pour suivre Jésus, une vie nouvelle commença à se dessiner devant lui. Une autre orientation. Il a pris une autre orientation pour sa vie. Et ça nous parle de la conversion. La conversion, c'est un changement de direction. Il a décidé de suivre Jésus. Frères et sœurs, si nous suivons Jésus, si nous sommes personnellement conscients que nous suivons Jésus, nous sommes heureux ce matin. Nous ne pouvons pas nous tromper. Et nous allons droit vers, alléluia, cette félicité, ce paradis que eh bien, Dieu lui-même a préparé pour chacun de notre vie. Oui, à l'instant même, eh bien, Lévi a connu eh bien, ce que, pour la plupart, nous avons connu, eh bien, ici présent ce matin, il a connu cette nouvelle naissance, une transformation. En même temps que nous nous confessons à Dieu, que nous demandons pardon pour nos péchés, il y a ce miracle de la nouvelle naissance qui vient sur nous. Dieu, et ça c'est le miracle de Dieu, il vient, il nous transforme. Il y a des changements, peut-être même à notre insu, qui arrivent devant nous. Le langage qu'on avait avant, eh bien il n'est plus. Et face au mal, et face à la tentation, on a d'autres attitudes. On s'éloigne du mal, et on se tourne vers le bien. On commence à aimer les gens. N'allez pas me dire que quand on vient eh bien, à connaître Dieu, on manque d'amour, c'est pas possible. Au contraire. Je m'appelle ce jour quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voulais embrasser tout le monde, moi. On aime les gens. Mais ça, c'est le miracle de Dieu, la nouvelle naissance. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il y a une autre version qui dit « Il est une nouvelle création. » Bon, c'est la même chose. « Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Avec Jésus, il tourne une page avec nous. Peut-être la première, elle était raturée, il y avait plein de problèmes. Il tourne une page avec nous, une page blanche, qu'il aimerait écrire avec la plume du Saint-Esprit. Un changement littéral. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même. Par qui ? Par Christ. Et qui nous a donné en retour le ministère de la réconciliation. Quand on est réconcilié avec Dieu, eh bien, on va aussi au-devant des gens et on les encourage à pouvoir, à leur tour, eh bien, être réconciliés avec Dieu. Quelqu'un qui se poserait la question, est-ce qu'il a un ministère ? Nous avons tous, nous chrétiens, potentiellement, le ministère de la réconciliation. Autrement dit, après avoir été sauvés, nous sommes chargés, nous sommes missionnés par Dieu pour pouvoir parler, être la bouche de Dieu et dire aux gens qu'il y a encore espoir. L'homme peut être déçu par son prochain, mais il ne sera jamais déçu par Dieu. Et si l'Église ne prend pas parti et n'exprime pas eh bien, cette vérité, qui le fera ? Qui le fera ? Oui, une personne qui a véritablement expérimenté la repentance et la conversion à Dieu est une personne qui s'est réconciliée avec Dieu et qui, par voie de conséquence, maintenant est sur le chemin. Alléluia, de la vie éternelle et qui maintenant, par voie de conséquence, suit Jésus, le Fils de Dieu. Voilà une première réponse, mais j'en ai une deuxième pour vous. En quoi consiste le fait de suivre Jésus ? Que veut dire suivre Jésus ? Il y a cette autre réponse, c'est suivre Jésus consiste à faire alliance avec Dieu sur la base de sa parole, celle qui est ouverte devant vous. Celle qui doit attirer tout notre respect. C'est pour ça, j'ouvre et je ferme la parenthèse, il est important que lorsque nous venons ici dans ce lieu de culte, de ne pas nous laisser distraire. Il y a beaucoup de distractions et qui nous empêchent eh bien, d'entendre comme il le faut la parole de Dieu. Et le diable est très fort pour cela, pour nous empêcher de comprendre la parole, afin que cette parole ne puisse pas produire son fruit de repentance qui nous permet par la suite de nous approcher et de voir même la foi grandir dans nos cœurs. Oh, tellement les soucis peuvent ce matin nous perturber. L'inquiétude, peut-être même notre orgueil. Oh, mais ça, j'ai déjà entendu l'histoire de repentance, conversion. Mais je sais. Mais peut-être que tu as besoin, mon frère, ma sœur, d'entendre à nouveau que tu as besoin de te repentir. Sur les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, il y en a 5 qui sont appelées à l'ordre avec amour par le Seigneur, les invitant à se repentir. Et nous voudrions ce matin nous exclure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Et on ne veut pas faire la sourde oreille. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais nous sommes là pour entendre la voix de Dieu. Et il nous rappelle que le suivre consiste à faire alliance avec Dieu sur la base de sa parole. Et par définition, qu'est-ce qu'une alliance ? Une alliance, c'est un accord. C'est une entente, une union, un pacte, contracté entre au moins 2 parties en présence. Et justement, trouver pour nous ce matin, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une alliance qui a eu lieu à un moment donné entre le royaume de Juda, avec son roi Josias, et puis Dieu lui-même. Et je vous encourage à pouvoir lire avec moi 2 Rois, chapitre 23, versets 1 et 3. Ah, on va se régaler. Prenez le temps de chercher dans l'Ancien Testament ce passage. 2 Rois, chapitre 23, du verset 1 à 3. Il est fait mention là du roi Josias, qui était à l'époque roi sur tout le royaume de Juda et de Jérusalem. Nous lisons ensemble. « Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il, le roi, lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel, verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple, que fit tout le peuple ? Il entra dans l'alliance. Ce jour-là, mes amis, le roi Josias et tout le peuple de Juda avec lui entrèrent dans une alliance avec Dieu qui consistait quelque part à pouvoir suivre Dieu sur la base de la mise en pratique des paroles de cette loi. Et cette parole de cette loi, c'est la parole de Dieu. Et on peut faire un parallèle avec nous-mêmes. Suivre Jésus, ça consiste à quoi ? Ça consiste à pouvoir nous soumettre au commandement de la parole de Dieu. Amen ou pas amen ? Et cet engagement personnel, nous le rendons à un moment donné public. En quoi faisant ? D'une manière officielle, en passant par les eaux du baptême. Ça a été le cas de notre sœur Naja. Virginie, est-elle là ce matin ? Non, je ne pense pas l'avoir vue. Donc nos 2 sœurs précédentes baptisées, c'est ça. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, que le baptême n'est pas la purification de nos anciens péchés, mais bien plus, un engagement d'une bonne conscience à l'égard de Dieu. Quand je me baptise, je signe en bas à droite et d'une manière publique, je dis, je veux suivre Jésus, alléluia, en me soumettant, non pas à ma volonté, mais à la volonté de Dieu. Mais permettez-moi de revenir sur ce texte qu'on vient de lire, et particulièrement sous le verset 3. Mon cher Pierre, est-ce que tu peux reprojeter 2 Rois, chapitre 23, et juste le verset 3, et juste la fin de ce verset. Il nous est dit, et tout le peuple, petit comme grand, entra dans l'Alliance. Moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai souligné sur ma Bible, entra dans l'Alliance. Un jour, on est entré dans l'Alliance. Mais la remarque que je voudrais faire de la part du Saint-Esprit ce matin, c'est le fait suivant, c'est entrer dans l'Alliance, c'est une chose. Mais y demeurer, c'en est une autre. C'en est une autre. Et c'est là où, malheureusement, le bât blesse. Et combien de chrétiens, on constate, ont négligé, ont bafoué, peut-être même ont rompu leur alliance avec Dieu. Ils sont là sans être là. Ils se disent croyants, mais il n'y a plus rien. Les termes de cette alliance, les termes du contrat ne sont plus respectés de leur côté, parce que de toute façon, du côté du Seigneur, ce sera toujours OK. Si nous sommes infidèles, lui demeurera toujours fidèle. Il demeurera toujours fidèle par rapport à son alliance. Il y a des personnes qui ont rompu cette alliance, ils ne s'en rendent même plus compte. Alors ils chantent, ils sont là présents. Mais il manque cette vie qui est générée par cette alliance. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il est bon de laisser aussi le Seigneur travailler nos cœurs et nous aider à faire ces introspections, ces analyses intérieures. Et savoir finalement où nous pouvons nous situer. Il est parlé dans la médecine de ce qu'on appelle le check-up. Vous allez là-bas à l'assurance maladie et on vous propose de faire gratuitement un check-up. On regarde votre cœur, on regarde un petit peu tout. Et je pense que sur le plan spirituel, c'est pareil. N'ayons pas peur de faire silence et comme on l'a entendu au travers du don spirituel, de se placer au pied du Seigneur et là entendre ce qu'il a à nous dire. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, par exemple. Paul nous exhorte au travers de ce qu'il a communiqué aux chrétiens de l'église de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Il nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est quoi finalement être dans la foi, si ce n'est aussi suivre le Seigneur ? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Regardez-vous vivre. Regardez, eh bien, si les faits sont là, il faut des fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et un disciple se reconnaît à son fruit. Quelqu'un qui suit le Seigneur, ça se reconnaît à son fruit. Et il rajoute, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et mon frère, ma sœur, si nous constatons que nous nous sommes écartés un tant soit peu de l'alliance dans laquelle nous étions entrés, sans faire un jeu de mots, je reviens sur ce verset 3, entrons tout à nouveau dans cette alliance. Renouvelons cette alliance. Celui qui est le premier et prêt à renouveler cette alliance, c'est Dieu qui nous attend toujours les bras ouverts. Même sur la croix, il avait les bras ouverts. Vous allez me dire, mais il a été contraint d'avoir les bras ouverts puisqu'il était retenu par les clous. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous qui l'a retenu sur la croix. Et je crois qu'il sera prêt à pouvoir renouveler notre alliance avec lui autant de fois que cela est nécessaire. Entrons tout à nouveau dans l'alliance. Renouvelons notre alliance avec Dieu en nous appliquant, bien sûr, à mettre en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui potentiellement suit le Seigneur. C'est quelqu'un qui potentiellement est un disciple. C'est quelqu'un qui potentiellement sera fin prêt quand le Seigneur Christ reviendra. Amen et amen. Je ne veux pas être trop long ce matin. Mais je voudrais que le peu que le Seigneur nous donne, nous puissions le retenir et le serrer dans notre cœur et surtout le mettre en pratique. On a vu, suivre le Seigneur consiste, bien sûr, premièrement à se réconcilier avec Dieu. C'est la condition, j'ai envie de dire, sine qua non. Le deuxième point qu'on a vu, c'est suivre Jésus consiste à faire alliance avec Dieu sur la base de sa parole. Je m'engage à suivre le Seigneur coûte que coûte. Il y a peut-être un troisième point qu'on pourrait partager, non pas que la liste est exhaustive, mais je m'arrêterai à ce troisième point, pour rappeler aussi que le fait de suivre Jésus consiste aussi à renoncer à nous-mêmes et à porter notre croix. Alors j'ai entendu 2-3 amens sur le côté gauche, mais je conçois que je n'ai pas à parler assez fort. Alors je le répète tout simplement. Suivre Jésus consiste aussi à renoncer à nous-mêmes et aussi à porter notre croix. C'est pas naturel pouvoir dire amen, surtout après cette déclaration. Pourtant, c'est celle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Regardez avec moi, Luc chapitre 9 et le verset 23. C'est Jésus qui parle. Et il dit à tous, pas seulement à ses disciples, mais toutes les foules qui étaient là réunies devant lui, tous ses contemporains, Jésus leur dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et enfin qu'il me suive. Alors je conçois que ce que je vais vous partager maintenant n'est vraiment pas populaire. Et ce qu'on a lu, eh bien, ne réjouit pas trop notre chair. Au contraire, notre chair, elle est au qui-vive là. Oh, voilà. Renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix, oh là là ! Vous savez, et on le voit même au niveau des mariages, aujourd'hui, nos jeunes, enfin en tout cas donc les jeunes dans le monde, de moins en moins désirent s'engager. Ils veulent l'amour sans l'engagement. Alors c'est faux. Alors de plus en plus, les gens, oui, ils s'aiment et peut-être sont-ils sincères dans leur amour, mais il manque une dimension, c'est celui de l'engagement, l'abandon à l'autre. Quand le Seigneur, par le sacrement du mariage, nous invite à nous unir avec notre épouse, c'est pour qu'on soit un. Il y a un renoncement. Si quelqu'un n'est pas prêt, alléluia, pour rendre heureux l'autre, eh bien, ne vous mariez pas. Et souvent, les personnes veulent se marier eh bien, juste pour se faire plaisir, juste pour répondre à leurs propres besoins. Mais là, on fait fausse route. Le mariage non seulement consiste à regarder dans la même direction, mais cherche aussi eh bien, à contribuer au bonheur de l'autre. Et jamais un conjoint pourra eh bien, combler eh bien, pleinement le bonheur de l'autre. C'est le Seigneur Jésus. Et là aussi, il ne faut pas qu'on fasse fausse route. Chacun eh bien, des couples, chacun des conjoints doit chercher en Jésus-Christ tout ce dont il a besoin pour après, en étant comblé, eh bien, il puisse en retour combler son prochain. Oh, tout ça, ce n'était pas sous mes notes, hein, mais je referme la parenthèse. Mais je crois que Dieu veut nous parler encore en ce matin. Dieu veut nous instruire. Et je reviens sur mon propos. Oui, c'est vrai que c'est pas ce que je vais dire n'est pas toujours bien populaire chez nous quand on parle de renoncement, de porter sa croix. Wow. Pourtant, ce que je vais partager est indispensable pour comprendre ce que eh bien, veut dire le fait de suivre Jésus. En effet, Jésus a commencé par parler de renoncement à soi-même. Ou encore d'abnégation, d'abandon. Et je rappelle que c'est Jésus lui-même qui parle, ce n'est pas un autre. Et il explique donc à ses disciples et à la foule, à tous, que s'ils veulent réellement suivre sa personne, il faut qu'ils vivent premièrement un renoncement. Alors le problème aujourd'hui, je l'ai déjà dit en ces lieux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, ayant compris l'évangile, ayant compris l'enjeu qu'il y a, et que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole, c'est-à-dire... Lorsque eh bien, on se donne au Seigneur, on est épargné de la perdition éternelle pour entrer dans la vie éternelle. Eh bien, nombreux chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur. Parce qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Jésus seul sauve. Ils ont compris cette dimension et ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur. Parce que personne ne veut aller en enfer. Qui veut aller en enfer? Levez la main. Parce que de suite, on prend un entretien ensemble hein, et je prie pour vous. C'est quelque chose, un endroit où même le diable ne veut pas aller. Et il faut préciser qu'au départ, l'enfer était préparé pour le diable et pour ses anges. Jamais Dieu a eu l'intention de pouvoir réserver l'enfer pour aucune de ses créatures. Dieu avait prévu l'homme pour avoir cette relation quotidienne. Mais le péché est venu à bien faire obstruction entre notre relation avec Dieu. Mais Dieu a donné un moyen, et on l'a entendu au travers des chants, le sacrifice de Jésus. Et par ce sacrifice, nous avons été pardonnés de nos péchés, et par ce sacrifice, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons été justifiés aux yeux de Dieu. Par ce sacrifice, alléluia, nous pouvons obtenir la vie éternelle et être épargnés de la perdition éternelle. Que demander de plus? C'est pour ça que la Bible dit, autre part, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, renoncer... à soi-même n'est pas toujours bien compris des chrétiens. Alors ils acceptent cette dimension, recevoir Jésus comme leur sauveur, mais quand il s'agit de reconnaître Jésus comme leur Seigneur, ça c'est toute une autre histoire. Et oui, parce qu'il y a une nuance. Il y a Jésus sauveur, et puis Jésus Seigneur. Et quand on reconnaît Jésus en tant que Seigneur, eh bien on se soumet à sa seigneurie. On se soumet à lui, et on pourrait déclarer à ce moment-là, ce qui est écrit sur le pan de ce mur, que ton règne vienne. Est-ce que Jésus est véritablement roi sur notre cœur? Est-ce qu'il règne véritablement? A-t-il la première place? Avons-nous réellement renoncé? Renoncer à soi-même consiste justement à reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaître Jésus comme son Seigneur implique un renoncement total, un abandon total de notre part. C'est pour ça que la chorale, le groupe vocal a eu raison tout à l'heure de chanter « Je te donne mon cœur ». Mais là, tout le monde le chante, et puis il est beau, il est facile ce chant à chanter. Mais réalisons les paroles. Je te donne mon cœur. Mon cœur ne m'appartient plus. Et quand le Seigneur a notre cœur, il a tout. Mon cœur, je te le donne. Prends ma vie, prends mon... Et c'est l'offrande que Dieu attend de nos cultes, que nous puissions nous livrer et dire, mais Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Alors le chanter, c'est une chose, mais le vivre, c'est tout autre. Lorsque Jésus invita Lévi, j'insiste à nouveau, on l'a lu au verset 23, me semble 27, ce dernier laissa tout, se leva et se mit à suivre Jésus. À l'instant même, il a laissé peut-être sa belle situation financière, il a laissé tout pour suivre le Seigneur. Je nous pose la question ce matin, sommes-nous prêts à tout renoncer pour suivre Jésus? Avons-nous tout renoncé pour suivre à Jésus? Ou avons-nous garder dans nos poches quelque chose que Dieu aimerait que nous lui remettions? Je nous pose la question. Hein. Vous savez, un jour, le Seigneur, il a vu un jeune homme riche venir vers lui. Et cet homme, plein de sincérité dans le cœur, « Oh, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il y a une discussion qui s'enclenche. Et Jésus lui dit, « Oh, papa, il te manque encore une chose. » Et il lui fait une proposition. Finalement, tout comme Lévi, il lui fait cette invitation eh bien, qui consiste à dire à ce jeune homme, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand Jésus a fini d'exprimer cette invitation, la Bible nous dit que le cœur de cet homme, de ce jeune homme, était tout triste. Pourquoi ? Parce qu'il est très riche cet homme. Il était très 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 riche. Et soyons honnêtes, il ne voulait pas renoncer à sa richesse pour suivre le Seigneur. Alors là, Seigneur, alors il n'a pas dit, mais intérieurement, alors là, Seigneur, là, tu me demandes trop. Là, c'est l'endroit où il ne faut pas toucher. Tu peux aller partout. C'est comme si on invite le Seigneur eh bien, chez nous et on lui dit, bon, tu restes au séjour là, mais interdiction d'aller à la cuisine, interdiction d'aller encore moins dans la chambre. Là, il y a des choses que tu ne dois pas voir. Reste là, 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 reste là. Il repartit tout triste. Mais quelque part, ce que ce jeune homme riche n'a pas compris, c'est que ce jour-là, Jésus l'invita à renoncer, non pas à ses biens, non pas à ses biens, détrompez-vous, mais il l'invita à renoncer à sa cupidité, l'amour qu'il avait de l'argent. Et cet homme, au départ, il était sincère. Mais Jésus, quand on vient vers lui, quand on désire le suivre, il va nous dire la vérité et il va mettre le doigt là où peut-être ça fait mal. Là où le divin médecin a besoin de soigner quelque chose dedans de nous. Et cet homme avait besoin d'être délivré de sa cupidité. D'ailleurs, potentiellement, cette même cupidité l'empêchait de suivre Jésus. Et c'est alors que je nous pose cette question, ou je fais la réflexion suivante plutôt. Peut-être que Jésus te demande aussi de renoncer à quelque chose de bien particulier dans ta vie. Quelque chose qui justement t'empêche réellement de suivre le Seigneur. Vous savez, il y a toutes sortes, un jour on pourra regarder, il y a toutes sortes de moyens de suivre Jésus. Combien de personnes eh bien, suivaient Jésus? Il y avait des grandes foules qui suivaient Jésus. On peut suivre Jésus de loin, comme à un moment donné, Pierre a suivi Jésus de loin. Pourtant, lui, il a connu la proximité avec Jésus. Peut-être que le Seigneur voudrait que tu enlèves dans ta vie quelque chose qui prend la première place, qui doit revenir à Dieu. Peut-être pour un autre, c'est une passion coupable que Dieu te demande d'abandonner. Peut-être aussi, c'est une rancune, ou une amertume, ou un désir de vengeance qui te harcèle et que Dieu te demande eh bien, d'abandonner. Mais ce que je voudrais te dire ce matin de la part du Seigneur, si le Seigneur te demande de renoncer à quelque chose, qui peut-être même te coûte, accepte. Fais confiance à Dieu. Obéis et tu verras en retour la bénédiction du Seigneur. Quelquefois, on ne comprend pas toujours eh bien, les directions que Dieu nous demande. On ne comprend pas toujours. Et je suis sûr que ce jeune homme riche, peut-être est-il parti en disant « Mais là, Jésus m'a piégé, il a voulu... » Non, Il n'y a rien de... Le Seigneur n'a pas... Et il est transparent avec nous. Et il nous aime. Il nous aime. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et s'il nous dit de renoncer à quelque chose, c'est qu'il sait que ça, c'est quelque chose de nuisible pour toi, mon frère, ma sœur. Il te demande ce matin de venir devant l'autel, devant le trône de la grâce, parce qu'il n'est plus sous la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. On l'a chanté tout à l'heure. Il est ressuscité. Et tu peux venir devant ce trône et dire, mais Seigneur, je ne veux que rien me sépare de toi. Je veux te suivre, mais pas suivre à 50%. Vous savez qu'il y a des personnes qui, eh bien, en mode masqué, toute la semaine, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Et quand ils arrivent ici, paf, on met notre costume, on met notre comportement, notre attitude. Et que Dieu nous garde d'être des chrétiens schizophrènes. Mais ce que nous vivons dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, il faut qu'on le vive aussi à l'extérieur. Il faut que les gens, même sans parole, parce qu'il y en a, ils parlent, mais plus ils parlent, les gens s'éloignent. Mais il y a des personnes, même sans parole, les gens reconnaissent qu'il y a une lumière qui luise au travers d'eux. Il y a la vie de Christ. Il y a quelque chose qui se passe. Plaise à Dieu que ce soit notre expérience. Alléluia aux uns, aux autres. Oui. Peut-être que Jésus te demande d'abandonner quelque chose. Fais-le. Et alors, en retour, il te bénira. Il te permettra de suivre Jésus comme il se doit. Vous savez, l'exemple dans la matière... C'est le Seigneur Jésus, le même qui a expliqué à ses disciples comment le suivre comme il le faut. Parce que si Jésus nous demande de renoncer, il sait de quoi il parle. Remarquez, tout ce que Jésus nous demande de faire, lui-même l'a fait puissance 10. Oui ou non? Quand il nous demande de pardonner, est-ce qu'il n'a pas pardonné même sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je suis sûr qu'à ce moment-là, un éclair est tombé, bam! La vie... à laquelle Dieu nous appelle, est une vie de miracle. Et nous invite à pouvoir, tout comme Pierre, marcher sur les eaux, mais d'une manière spirituelle. Marcher à contre-courant, donc, de ce monde. Et pour cela, et pour ce faire, il faut suivre l'exemple du Seigneur Jésus qui a finalement renoncé à tout. Quel renoncement n'a-t-il pas connu? Il a été même jusque dans ce jardin. Vous savez qu'il a sué du sang, quelque chose qui se prouve par la médecine, mais qui est tellement rare. Il y avait une telle pression sur lui. Mais face à cette coupe qui lui était présentée, qui n'était pas physique, mais qui était bien réelle, il a dit, Seigneur, si cette coupe, oh Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Voilà l'esprit du renoncement. Voilà ce qu'on a besoin de rechercher. Je dis rechercher, nous tous, moi le premier, parce que je m'inclus, je ne m'extériorise pas de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Jésus a vécu une vie de renoncement et grâce à cela, c'est le cas de le dire, il a su porter sa croix. Mieux encore, il a su mourir jusqu'à la mort même de la croix. Et ça me permet justement de revenir sur ce deuxième point qu'il a cité. Je ne veux pas ne pas aussi parler de le fait de porter sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce à lui-même et s'il ne se charge chaque jour de sa croix, il ne peut me suivre. C'est quoi porter sa croix? Il y a tellement d'explications à ce niveau, alors qu'il faut le prendre d'une manière simple. Remarquez déjà quand il est dit, toujours Luc chapitre 9 et le verset 23, mon frère si tu peux le projeter, il nous est parlé là, et Jésus parle, il parle de sa croix, qui se charge chaque jour de sa croix. Ma croix n'est pas la même que celle de Leslie. Ma croix n'est pas la même que celle d'Irmine. Il y a une croix qui est personnalisée pour chacun d'entre nous. Personnalisée suivant les circonstances que nous sommes en train de traverser les uns les autres à cause de notre foi. Nous, chrétiens, nous sommes invités à porter notre croix le dimanche seulement. J'attendais un amen, parce que là, j'allais reprendre la personne. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit, pas seulement le dimanche, mais même tout à l'heure, cet après-midi, je dois continuer à me charger de cette croix. Alors de quoi fait-il mention? C'est quoi porter sa croix? Notons d'abord que la croix dont Jésus fait mention nous parle exclusivement de notre foi. Elle est en rapport avec notre foi. N'allez pas chercher autre chose. De porter sa croix, c'est lié au fait que nous connaissons le Seigneur et qu'à cause de cela, bien sûr, nous sommes confrontés à l'esprit de ce monde. La croix est ici l'image de toutes les persécutions, toutes les adversités, toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer les uns les autres. On ne va pas chercher ces souffrances. Mais quand elles viennent à nous et quand elles nous oppressent, quand elles viennent nous agresser, nous devons, eh bien, avec fierté, avec la force du Seigneur, porter notre croix. Vous comprenez cela ? C'est important. Pensons à nos frères et nos sœurs qui constamment sont persécutés. Quelle croix ! Quelle immense croix ils sont en train de porter jour après jour. Pourtant, Dieu leur donne la force par le Saint-Esprit. Porter sa croix, c'est aussi, on peut le dire, eh bien, lorsque nous témoignons de Jésus-Christ. Parce que ce témoignage n'est pas toujours bien accueilli. Hein. À des moments qui sont très, des personnes sont très ouvertes quand on leur parle du Seigneur, mais il y en a, soyons honnêtes, mais qui nous rejettent. Un jour, on m'a craché dessus. Une autre fois, on m'a sorti un couteau. C'était la plus belle. Alors que nous, avec un frère, on parlait de l'amour de Dieu. Le gars, il a sorti un couteau. Et paradoxalement, il vendait des tableaux de Marie. Et il avait des tableaux de Marie sous le bras. Il a déposé ça et puis il a sorti son couteau. Mais c'était plus lui, là. C'était plus lui. Porter sa croix, c'est pouvoir endurer toutes ces choses. Et on comprend, eh bien, l'apôtre Paul, qui, eh bien, dans son dernier courrier, va parler à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée. Et il va dire, ne le cherchez pas, de Timothée, chapitre 1 et le verset 8, il lui dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il y a un autre verset de Timothée, chapitre 2 et le verset 3. Il insiste toujours dans le même courrier. Il va dire à ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Merci Seigneur, toutes les fois où on nous accueille, on accueille le merveilleux message de l'évangile au travers de notre bouche. Mais béni soit Dieu, toutes les fois on est persécuté comme Jésus a été persécuté. Quand on est rejeté, toutes les fois où Jésus a été rejeté. Il n'a jamais fait l'unanimité et nous n'en ferons jamais l'unanimité. La croix ici consiste à toujours être droit et honnête. Même s'il nous faut perdre quelques avantages, quelques gains dans ce bas monde. On sait ce qui est droit et juste devant Dieu. On est une période où il faut remplir les papiers d'impôt. On sait, on est là et on sait qu'on peut contourner la chose. Qu'allons-nous faire ? Mon frère, ma sœur, porte ta croix. Et tant pis si tu perds quelques centaines d'euros, c'est pas grave, tu le retrouveras dans le ciel. La croix ici consiste à toujours être droit et honnête, mais aussi à pouvoir rejeter le mal et toujours poursuivre le bien. Alors puisse Dieu nous aider à renoncer à nous-mêmes et aussi à porter notre croix. Et tout ceci afin que nous puissions, d'une manière claire, concrète, suivre le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Je conclue. C'est la conclusion. Permettez-moi de conclure justement en ajoutant peut-être un dernier point qui va nous permettre de suivre le Seigneur Jésus. Je vais suivre le Seigneur lorsque je vais m'attacher davantage à lui. Lorsque mon amour va grandir pour lui. C'est la base de tout, frères et sœurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, pour la petite histoire, Lévi, est-ce que vous savez que les noms hébreux, les noms juifs ont une signification ? Et Lévi veut dire... joint, attaché, attachement. Et je fais un jeu de mots. Soyons potentiellement des Lévis qui, jour après jour, profondément, s'attachent de plus en plus à Christ. Ce qui va nous permettre d'être fin prêts pour le retour du Seigneur, c'est l'amour qui nous relie à Dieu. Et si nous prétendons suivre Jésus sans amour pour lui, nous n'irons pas bien loin. C'est ça la réalité. Ce sera l'affaire de quelques temps. Les années vont passer, et puis il faudra une première, une deuxième vague, et puis on ne verra plus personne. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour nous perdre, mais nous sommes là pour sauver nos âmes, comme le dit le livre d'Hébreux. L'amour doit être le moteur de notre désir de suivre Jésus. Sans amour, d'ailleurs, nous ne pouvons pas demeurer dans l'alliance que Dieu a fait avec nous au travers de Jésus-Christ et au travers de sa parole. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Sans amour, nous ne pouvons pas non plus renoncer à nous-mêmes, ni même porter notre croix. Si on n'aime pas le Seigneur, cette croix, on va la laisser tomber. On va chercher quelque chose de plus léger. Pourtant, le Seigneur, il a dit, mon fardeau, il est léger. mon fardeau, eh bien, mon joug, il est doux. Et porter la croix du Seigneur, c'est pas... Et la croix que Dieu nous invite à porter, c'est pas difficile. Surtout quand le Saint-Esprit nous aide, nous assiste, même dans nos faiblesses, frères et sœurs. La Bible dit, et je termine par ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà le renoncement auquel Dieu nous appelle. Voilà bien aussi le fait de pouvoir porter notre croix, tout comme le Seigneur l'a porté. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voudrions te montrer de manière concrète que nous voudrions te suivre jusqu'au bout. Merci pour la fidélité que tu as placée dans nos cœurs, pour que chaque jour nous puissions persévérer sur ce chemin, certes si étroit, mais qui mène à la vie éternelle. Je veux te suivre. Et nous sommes conscients, Seigneur, que nous n'avons pas toujours les capacités, la force personnelle de pouvoir le faire. Mais nous comptons sur ta grâce. Parce qu'à la croix, tu as pourvu pour que nous soyons plus que vainqueurs et victorieux en toutes choses. Permets ce matin, peut-être à une personne qui viendrait pour là ou les premières fois, quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, puisse décider de suivre, de te suivre. Quel bonheur de te suivre. Je suis convaincu que Lévi, Seigneur, jamais, au grand jamais, n'a regretté ce choix de tout laisser, tout abandonner pour te suivre. Et cet honneur, Seigneur, tu nous l'as aussi accordé. Alors je te prie de permettre à plusieurs de pouvoir le vivre ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen. Gardons les têtes baissées. Gardons les têtes baissées. Il y a peut-être quelqu'un, c'est vrai, en effet, effectivement, quelqu'un qui, voilà, s'approche, a entendu parler de Dieu et interpellé. Et peut-être que ce matin, le Seigneur te demande maintenant de pouvoir t'engager à le suivre. Et il t'a donné ce matin quelques pistes, il t'a éclairé. Mais il veut un acte concret ce matin. Par la foi, il voudrait que tu te positionnes devant lui. Et si quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur voudrait ce matin décider de suivre le Seigneur, lève-toi spontanément à ta place, comme Lévi l'a fait en son temps. Lève-toi à ta place et je prierai dans le nom de Jésus-Christ avec toi. Lève-toi spontanément. Si tu veux bien réellement suivre le Seigneur, lève-toi à ta place et le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur t'éclairera, il continuera, il guidera tes pas. Et il y a peut-être aussi bien des personnes qui ont besoin de renoncer. Renoncer à quelque chose. Dieu t'a dit d'abandonner ça parce que ça te fait du mal et ça t'empêche réellement de suivre le Seigneur. Lève-toi également à ta place. Et devant le Seigneur, dis Seigneur, je veux réellement te suivre et non pas à 50% ou 99%, mais à 100%. Et tu sais, Seigneur, que ça c'est un obstacle dans ma vie. Si tu as besoin de te positionner et peut-être à nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, entrer dans l'alliance de Dieu, lève-toi à ta place, car Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te bénir, et je vais prier dans le nom de Jésus avec toi. Y aura-t-il une autre personne? Et ton cœur bat, et tu sais, et tu connais ce contentieux que tu as avec le Seigneur, mais Dieu te dit ce matin, il y reste encore espoir, il y a une solution. Lève-toi à ta place, prends position, et ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur ta vie. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées ce matin? Et je te prie dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir répondre, même au-delà de, Seigneur mon Dieu, de ce qu'ils attendent de ta personne. Ils veulent se positionner avec toi, ils veulent avancer avec toi, ils veulent pleinement te suivre comme il se doit. Seigneur, tu viendras chercher une église vainqueur. Tu viendras chercher une église, Seigneur Père mon Dieu, qui aura, Seigneur Père mon Dieu, combattu le bon combat de la foi. Et Seigneur, ces personnes veulent être, Seigneur, de ce nombre-là. Et je te prie encore ce matin de pouvoir les bénir, de pouvoir, Seigneur, les secourir, de pouvoir les délivrer. Et s'ils ont besoin de renoncer à quelque chose, tu leur donnes la force de pouvoir abandonner ces choses, comme, Seigneur mon Dieu, l'a fait en son temps Lévi, spontanément, à abandonner tout, se lever et se leva pour pouvoir te suivre. Qu'il en soit ainsi encore pour, Seigneur Père, ces personnes qui se positionnent par la foi devant toi. Pardonne leurs péchés, pardonne leur iniquité, fais grâce. Seigneur Père, mon Dieu, donne-leur à pouvoir trouver victoire en toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Tout cela pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse.